VOA Afrique,
le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 10 juillet 2018, en direct de Washington, Idrissa Senoudia,
Jean-Roger Billon.
Pour commencer les titres.
Au Cameroun, la date de l'élection présidentielle a été fixée au 7 octobre.
12 pêcheurs congolais tués depuis jeudi et une dizaine d'autres portés disparus autour du lac Édouard, entre le Congo et l'Ouganda.
En Guinée, Conakry, la capitale, paralysée par un mouvement de grève hier contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe.
Au Sénégal, la défense de l'opposant Khalifa Sall, condamné pour détournement de fonds publics, a boycotté hier à Dakar son procès en appel.
Brett Kavanaugh, c'est le nom du juge conservateur choisi par le président Donald Trump pour la Cour suprême des États-Unis.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, l'élection présidentielle aura lieu le 7 octobre. Le président Paul Biya a publié hier un décret fixant la date du scrutin, alors que la tension reste vive à Buya, capitale de la région anglophone du Sud-Ouest. Le point avec Irénée Hermano-Ngbo.
C'est en restant terrés dans leur maison que les habitants de Buya ont suivi à la télévision publique la lecture du décret. Les quelques 100 000 habitants de cette ville ont eu peur de sortir après les échanges de tirs nourris dans la matinée entre des soldats et des hommes armés non identifiés, mais présentés comme des séparatistes. Le président Paul Biya au pouvoir depuis bientôt 36 ans n'a pas annoncé s'il serait candidat à un 7e mandat, mais il est présenté par son parti comme un candidat naturel. Les opposants dont Joshua aussi qualifient son bilan de chaotique. Monsieur aussi a été investi en février candidat du principal parti d'opposition, le Social Democratic Front anglophone. Cet homme d'affaires de 49 ans tentera de briguer la présidence, comme l'avait fait lors de scrutins précédents, ni John Frundi, leader du SDF et opposant historique à Paul Biya, mais qui a cette fois-ci décidé de céder la place aux jeunes de son parti.
12 pêcheurs congolais ont été tués depuis jeudi et une dizaine d'autres sont portés disparus après des représailles de militaires ougandais sur le lac Édouard que la République démocratique du Congo et l'Ouganda se partagent. C'est ce qu'a annoncé hier le secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial du Nord Kivu, Muhindo Kiakwa. Il fait partie d'une délégation congolaise arrivée hier en début d'après-midi à Kampala pour des négociations sur le relâchement des tensions sur le lac Édouard.
Grève hier à Conakry, la capitale guinéenne a été paralysée par un mouvement contre l'augmentation de 25% du prix du carburant à la pompe et des incidents entre manifestants et forces de l'ordre n'ont pas manqué Bagassikoura.
Le mouvement a été déclenché pour une journée le 4 juillet par la Confédération nationale des travailleurs de Guinée et l'Union syndicale des travailleurs de Guinée et reconduit pour 72 heures. Aucun véhicule de transport en commun n'a quitté les gares routières de la capitale et les taxis collectifs urbains n'étaient pas visibles. Les syndicats des transporteurs ont posté des jeunes sur les grands axes, notamment le boulevard Le Prince et l'autoroute Fidel Castro pour imposer le blocage de la circulation. Au moins, un taxi a été incendié par des jeunes manifestants qui ont affronté les forces de l'ordre à Kisoso, dans la banlieue sud de Conakry, à coups de pierre. Les forces de l'ordre, munies de matraques, ont riposté en tirant des grenades lacrymogènes sans parvenir à éloigner les manifestants. Le maintien du carburant au prix antérieur de 8000 francs guinéens contraint le gouvernement depuis octobre 2017 à consentir des subventions de plus en plus fortes sous forme de renonciation partielle à ses droits et taxes, soit environ 736 milliards de francs guinéens, près de 70 millions d'euros, a indiqué le ministre des Hydrocarbures, Diakaria Koulibaly. Dans le reste du pays, notamment dans les grandes villes comme Kindia, Boké, Mamoun Labé ou Nzérékoré, le mouvement a été largement suivi la semaine dernière.
Au Burkina Faso, l'adjudant-chef major Eloi Badiel, considéré comme le chef des opérations du putsch manqué de 2015, dont le procès se poursuit à Ouagadougou, a dit lundi avoir agi sur instruction indirecte du général Diendéré. L'adjudant-chef a été mis en cause par de nombreux soldats qui ont comparu avant lui. Le général Gilbert Diendéré, ancien chef du régiment de sécurité présidentielle, et avec le général Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères du régime Compaoré, le principal accusé du procès du coup d'État manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés.
Au Sénégal, la défense de l'opposant et maire de Dakar, Khalifa Sall, condamné le 30 mars à 5 ans de prison pour détournement de fonds publics, a boycotté hier son procès en appel. Ses avocats protestaient ainsi contre le rejet par la cour de leur nouvelle demande de renvoi du procès. C'était pour permettre, selon eux, l'examen par le Conseil constitutionnel de leur requête visant à déclarer contraire à la Constitution les textes sur lesquels repose la condamnation de leurs clients.
Après un sommet historique, l'Érythrée et l'Éthiopie ont signé hier à Asmara une déclaration mettant fin à 20 ans d'état de guerre et formalisant le rapprochement. Le point avec Ekia Badou.
Le ministre érythréen de l'information, Yemane Gebremeskel, a annoncé hier que le président érythréen Isaias Afewerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont signé une déclaration conjointe de paix et d'amitié. Dans son communiqué, il a ajouté que l'état de guerre entre les deux pays est arrivé à sa fin. La déclaration confirme la reprise du commerce, des transports et des télécommunications, le rétablissement des relations diplomatiques et la mise en œuvre des décisions internationales sur la frontière commune. Pour la première rencontre depuis 20 ans entre les dirigeants des deux pays, la délégation éthiopienne a reçu dimanche un accueil chaleureux à Asmara. L'Éthiopie et l'Érythrée se sont livrés à une guerre qui a fait quelque 80 000 morts de 1998 à 2000. L'Éthiopie a promis rendre dans les prochains jours la ville de Batmé, qui était au cœur du litige sur le tracé de leur frontière commune.
Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a souligné lundi, lors d'une visite à Tripoli en Libye, la nécessité d'établir une liste noire des principaux passeurs de migrants en vue de combattre le trafic en Europe et en Afrique. Il a suggéré l'installation de centres d'accueil à la frontière entre le Niger et la Libye, où seraient distingués ceux qui ont effectivement le droit d'être accueillis, les réfugiés, et les autres qui ne sont que des migrants économiques.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Tonight, it is my honor and privilege to announce that I will nominate Judge.
Ce soir, j'ai l'honneur et le privilège d'annoncer que je nomme à la Cour suprême des États-Unis Brett Kavanaugh. Le président américain Donald Trump, hier soir à la Maison-Blanche, où il a finalement mis fin au suspense en nommant le magistrat Brett Kavanaugh à la Cour suprême, ancrant ainsi dans le conservatisme l'institution qui tranche les grands débats de la société américaine. Actuellement juge à la Cour d'appel de Washington, Brett Kavanaugh, 53 ans, a aussi été conseiller juridique de l'ancien président républicain George W. Bush. Le juge Kavanaugh s'est dit profondément honoré d'avoir été choisi pour devenir le 9e juge de la Cour de la Haute Cour. Un juge doit être indépendant et doit interpréter la loi et non pas faire la loi, a-t-il assuré lors d'une courte allocution en présence de M. Trump et devant sa famille et ses parents, à qui il a rendu hommage. La nomination du juge Kavanaugh doit désormais être confirmée par un vote du Sénat.
Le président Donald Trump s'en est de nouveau pris hier aux alliés de l'OTAN, renouvelant son appel à une augmentation de leurs dépenses militaires. Le président américain participe demain au sommet de l'Alliance Atlantique qui s'ouvre à Bruxelles, Morgan Guiriec.
Le président Trump a écrit hier dans un tweet « Les États-Unis dépensent bien plus pour l'OTAN que n'importe quel autre pays, ce n'est pas juste ni acceptable ». Il a planté le décor avant le sommet qui se tient jeudi à Bruxelles. D'après l'Alliance Atlantique, en 2017, les États-Unis ont contribué à hauteur de 72%, soit 686 milliards de dollars, sur un total de 957 milliards de dollars. Le Royaume-Uni arrive en deuxième position avec 55 milliards de dollars, suivi de la France, 46 milliards. L'Allemagne, première économie européenne, a contribué pour 45 milliards, faisant de ce pays la cible privilégiée de M. Trump. En 2006, les ministres de la Défense de l'OTAN avaient fixé un objectif représentant au moins 2% du PIB de chaque pays membre. Mais face à la crise, beaucoup d'États ont coupé dans leurs dépenses militaires. Au sommet de Cornouailles en 2014, inquiets de la baisse des budgets en pleine crise ukrainienne, les membres de l'OTAN s'étaient engagés à tenter d'atteindre l'objectif de 2% du PIB en une décennie.
En Thaïlande, les autorités ont annoncé l'arrivée sain et sauf à l'hôpital des 4 derniers garçons évacués de la grotte inondée où ils se trouvaient depuis plus de 2 semaines. Il ne reste plus que 4 garçons et leur entraîneur dans la grotte. Vous écoutez VOA Afrique, fin de ce journal.
La Minute Éco, Eric Maniraktiza.
L'agence de planification et de coordination du NEPAD deviendra l'agence de développement de l'Union africaine. Le récent sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Nouakchott a décidé de doter de cette agence de sa propre identité juridique et de ses propres statuts que devra adopter le prochain sommet de l'Union africaine en janvier 2019. C'est pour la mise en œuvre de la vision du développement du continent telle qu'articulée dans les 7 aspirations et les 20 objectifs de l'agenda 2063. La Banque mondiale va accorder au Burkina Faso plus de 2 milliards de dollars en dons et crédits concessionnels. Le financement va couvrir la période 2018-2023 pour la mise en œuvre de son plan national de développement économique et social. Ce projet prévoit de contribuer à la création d'emplois et à l'accélération de la croissance, au renforcement des investissements dans le capital humain, notamment la santé, l'éducation et le développement de la...
Notre page sport avec Nicolas Pinault.
Bonjour à tous, c'est le grand rendez-vous à Saint-Pétersbourg. Tout à l'heure, le coup d'envoi 18h temps universel. Ce mardi de la première demi-finale de la Coupe du Monde, la France opposée à la Belgique. Hier, lors de l'ultime échauffement au stade Krestovski, Kylian Mbappé était absent pour les Bleus. Benjamin Pavard et N'Golo Kanté ont couru en marge du groupe. Toutefois, aucun forfait n'est à prévoir dans les rangs tricolores. A rassuré Didier Deschamps, on écoute le sélectionneur des Bleus qui est revenu sur ces deux équipes qui se connaissent bien.
Ben eux, ils nous connaissent, on les connaît. La particularité, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de mon équipe qui ont des partenaires en face, en club. Donc, ils se connaissent. C'est un avantage des deux côtés. Ils peuvent s'apprécier, ils peuvent même avoir une bonne relation ensemble. Mais l'espace du match, le temps qui durera, évidemment... Chacun de son côté fera en sorte que, et surtout d'une autre, de pouvoir prendre l'opportunité qui est devant nous de pouvoir accéder à cette finale de Coupe du Monde.
Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Côté de la Belgique, qui n'a plus atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde depuis 1986, on espère pouvoir compter sur les précieux conseils de Thierry Henry, français mais entraîneur adjoint des Diables Rouges en charge des attaquants. On écoute Kevin De Bruyne.
He m'a rien dit qu'est-ce qu'il va faire. Peut-être il chante la Marseillaise. Mais à la fin, il n'a pas dit grand-chose sur l'équipe de France. Je pense que nous, on connaît les joueurs, beaucoup, ils jouent ensemble. Mais je pense pour lui, demain, c'est peut-être un peu difficile. Mais il travaille maintenant pour la Belgique, il veut qu'on gagne. Et c'est juste la boulot, il l'a maintenant.
C'était Kevin De Bruyne, le joueur belge. A noter que la deuxième demi-finale aura lieu demain entre l'Angleterre et la Croatie. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin-Gouy.
Bonjour. La seconde demi-finale de cette Coupe du Monde, l'Angleterre et la Croatie s'affrontent mercredi à Moscou dans un choc de revenants indécis. Champion du monde chez elle en 1966, l'Angleterre avait dû attendre 24 ans pour retrouver une demi-finale de l'épreuve après sa victoire miraculeuse obtenue face au Cameroun de Roger Milla 28 ans plus tard. Revoici les Britanniques aux portes de la finale avec des atouts indiscutables et une adversité moins évidente. On ne cesse de le répéter, l'équipe anglaise est jeune, surtout qu'elle a pu basculer dans la partie du tableau où les adversaires proposés arboraient plutôt un profil de sparring partner. L'effectif anglais est frais et son collectif s'est bonifié sans puiser dans ses réserves. En face se trouve une Croatie au talent individuel et collectif indiscutable, digne héritière de l'école yougoslave, un football capable de briller aussi bien dans le jeu technique au sol que dans les rudes batailles aériennes, avec de surcroît une grande efficacité devant les buts. Mais la Croatie qui a joué 2 prolongations difficiles contre le Danemark puis la Russie, pourra-t-elle récupérer physiquement? Réponse mercredi soir.
Merci Jules. Enfin, sachez que Luis Enrique a été nommé nouveau sélectionneur de l'équipe d'Espagne qui avait été éliminée, souvenez-vous, en 8e de finale par la Russie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'Éthiopie et l'Érythrée ont décidé d'enterrer la hache de guerre après des années de tensions militaires et diplomatiques. Les deux pays ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques, une décrispation qui pourrait avoir des retombées pour les deux pays. Pour une analyse, Idriss Fall a joint Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Oui, c'était le changement de premier ministre en Éthiopie. Monsieur Ahmed est venu et il a vu que c'était ridicule de ne pas parler avec l'Érythrée. Ils avaient une longue frontière, avaient des soldats sur la frontière qui coûtaient très cher. Il y avait une guerre froide. L'Éthiopie n'utilisait pas les ports de l'Érythrée, donc ils étaient obligés d'utiliser Djibouti, qui était très, très loin. Donc lui, M. Ahmed a dit, c'est ridicule de continuer comme ça. Il faut normaliser les relations. C'est gagnant-gagnant.
Qu'est-ce que l'Érythrée gagne dans tout ça?
D'abord, ils ne sont plus obligés d'avoir des milliers et des milliers de soldats sur la frontière. Ils peuvent utiliser ces hommes pour des autres choses, pour l'industrie, pour l'agriculture, etc. Deuxième, il n'y avait plus de commerce pendant 20 ans. Chaque côté perdait beaucoup d'argent. Maintenant, on peut recommencer le commerce. Et aussi, ils avaient des mauvaises relations avec les États-Unis à cause de ça. Les États-Unis ont besoin de l'Érythrée parce qu'ils sont sur la mer Rouge, en face de Yémen et tout ça. Donc, c'est très important pour que l'Amérique normalise aussi avec l'Érythrée.
Et l'Éthiopie va gagner quoi?
L'Éthiopie, c'est la même chose. Ils peuvent retirer les soldats sur la frontière. Ils peuvent recommencer le commerce. Ils ont perdu beaucoup d'argent avec l'absence de commerce. Et aussi, ils peuvent travailler ensemble avec l'Érythrée contre les islamistes, contre Al-Shabaab en Somalie. Tous les deux sont très contre l'islam révolutionnaire, tout ça. Ils peuvent travailler ensemble.
Et la ville de Badme, qui était un contentieux réglé par les accords d'Alger, mais les soldats éthiopiens sont toujours présents là-bas, hein, même si l'Éthiopie envisage rendre Badme à Asmara.
Oui, l'Éthiopie a accepté l'arbitrage qui était fait sur la frontière en Algérie. Et c'est-à-dire Badme appartient à l'Érythrée. Donc, ils ont dit, nous acceptons maintenant la solution de l'arbitrage. Donc, ils seront obligés dans quelques jours de rendre Badme à l'Érythrée.
Est-ce que l'Éthiopie aussi ne va pas gagner un peu avec son grand barrage sur le Nil?
Oui, mais ça n'a pas d'impact sur l'Érythrée. Mais ils peuvent travailler ensemble pour coopérer avec l'Égypte. C'est un grand danger pour l'Égypte s'ils perdent de l'eau, parce que l'eau du Nil, c'est la vie pour l'Égypte. Donc, il faut trouver des solutions et l'Érythrée a des bonnes idées là-dessus.
C'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, joint ici à Washington. Au Cameroun, des mouvements d'humeur à répétition sont enregistrés sur les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations de football que doit abriter ce pays en 2019. Le plus récent a concerné certains ouvriers des chantiers de la ville de Garoua dans le nord. Principale revendication, des arriérés de salaire qui varient, selon les grévistes, entre 4 et 6 mois. C'est le troisième mouvement d'humeur enregistré depuis le début de l'année sur l'ensemble des chantiers de la CAN 2019. De Yaoundé, reportage d'Emmanuel Jules Tap.
Deux jours de colère de près de 800 ouvriers engagés sur les chantiers de la CAN 2019 par la société Prime Potomac à Garoua, au nord du Cameroun.
Je suis à 5 mois sans salaire.
Chaque jour qu'on nous promet que tel jour on vous appelle, on arrive, on ne donne rien.
Quelqu'un travaille 6 mois, on ne lui paye même pas 5 francs. Je vis comment?
Qu'on nous régularise et non, on ne travaille même plus. On rentre à Yaoundé, on va rentrer chez nous.
Prime Potomac, la société qui les emploie, doit livrer 4 terrains d'entraînement, réhabiliter un hôtel et construire un autre de 4 étoiles d'une capacité de 130 chambres. La société, dit-on, ne recevrait plus les paiements de l'État, ses comptes étant bloqués, dans le malaise que vivent les ouvriers grévistes. Edibi Nkolo, directeur général de la société Prime Potomac.
Nous recevons de l'argent de l'État, mais la procédure, c'est de déposer les décomptes et que ces décomptes soient signés à temps et conduits jusqu'au paiement. On avait un effectif de 4500 ouvriers, compte tenu du fait qu'on a acquis du matériel qui nous permet d'avancer des travaux au niveau le plus élevé. On était obligé de libérer 3000, mais ils étaient tous payés au mois de mars.
En fin juin dernier, certains ouvriers du chantier du stade, qui devra abriter le match d'ouverture de la CAN à Olembe, en banlieue de Yaoundé, ont observé 2 jours de cessation d'activité. Situation similaire en début d'année 2018 sur le chantier du stade de Japoma. Célestin Bama, de la centrale syndicale des travailleurs du Cameroun, dénonce les contrats iniques ficelés sous le dos des ouvriers camerounais.
Il y a un melting pot. Même le ministère du Travail vous dit haut et fort qu'il n'arrive pas à avoir la maîtrise de cette sous-traitance. Vous avez un employeur utilisateur et il y a un autre qui joue l'écran et qui vous dit, je ne peux pas prendre sur moi de payer 1 franc à ce travailleur parce que je n'ai pas traité ça avec l'autre.
La 3e mission d'inspection de la CAF est attendue au Cameroun dans le prochain jour. Annoncé également le cabinet d'audit Roger Berger qui viendra jauger les infrastructures du Cameroun pour la CAN. La ville de Garoua est l'une des étapes de cette visite d'inspection. Jean Abaté, gouverneur de la région du Nord, président du comité local de supervision des infrastructures.
Le travail se déroule sur l'ensemble des sites de Garoua en toute sérénité. Les différents chantiers évoluent comme toute entreprise. Il peut y avoir un certain nombre de petites difficultés.
Pour se rendre compte du niveau d'exécution des travaux de la CAN, le premier ministre du Cameroun effectue une visite des différents chantiers cette semaine. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En République démocratique du Congo, de nombreux jeunes Kinois qui se lancent dans l'entrepreneuriat et rêvent de bâtir de grandes sociétés grâce à l'autofinancement. Malheureusement, leur ambition se heurte souvent au manque d'accès au crédit bancaire. Et faute de moyens financiers, beaucoup d'entreprises sont condamnées à disparaître. Reportage signé Patrick Abega.
Ils sont nombreux, ces jeunes de Kinshasa, qui se sont lancés dans les affaires. Sans grands moyens financiers, ils ont pris les risques de tout investir. Ils évoluent dans différents domaines, comme les transports, l'informatique ou même les boissons alcoolisées. Partis sans gros budget, ils ont espéré obtenir des crédits des banques. Mais ces institutions n'ont jamais répondu à leur demande de crédit pour financer leurs affaires. Selon certains, les banques se désintéressent des entreprises fondées par les jeunes car elles sont jugées moins rentables.
Les entreprises ont besoin déjà d'un projet qui est déjà bien établi, un projet qui est déjà sûr, qui est sur papier et qui a déjà une rentabilité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de crédit bancaire ici au Congo. Qu'ils nous fassent confiance pour leur crédit. Qu'ils fassent confiance beaucoup plus à nous les start-upers. Car si une banque X fait confiance à une entreprise Y, à partir du zéro, on peut augmenter peut-être nos rentabilités.
Pour les banques, il est difficile d'octroyer des crédits aux jeunes entrepreneurs pour multiples raisons.
La difficulté pour l'octroi des crédits aux jeunes entrepreneurs vient du fait qu'ils ont des projets qui ne sont pas rentables et ils n'ont pas souvent beaucoup d'expérience en la matière. Et aussi, ils n'ont pas de garantie solide pour soutenir leur demande de crédit.
Bien que cela soit une réalité, investir avec ses maigres moyens est un calvaire de tous les jours. Pour Ruth, vendeuse de cocktails et entrepreneur de Kinshasa, sans crédit bancaire, les projets innovateurs des jeunes dans le business sont appelés à disparaître.
Mon plus grand regret est que les banques ne donnent pas le crédit, les crédits bancaires aux jeunes entrepreneurs. Malgré nos demandes, malgré tout ce qu'on a eu à faire pour avoir cette chance-là, il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une bonne réponse quoi, jusque-là. Avec cette allure, en tout cas, nos rêves ne vont jamais se réaliser. Nos rêves vont disparaître.
Faute d'accès au crédit, les rêves des jeunes entrepreneurs sont étouffés en RDC. L'auto-emploi semble pourtant un enjeu capital dans un pays où plus de 65% de la population a moins de 25 ans. Principalement à Kinshasa, où le taux de chômage des jeunes avoisine 75%.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
En Haïti, les habitants de Port-au-Prince se démenaient hier pour tenter de se réapprovisionner après les 3 jours durant lesquels la capitale a été paralysée, en proie à des violences déclenchées par l'annonce, depuis suspendue, d'une hausse importante des prix des carburants. Dans un entretien hier avec Irénée Herman Ungo, notre confrère Obed Lamy, chef d'édition de la plateforme Info Citoyen, a expliqué que le pays s'est réveillé lundi dans un calme précaire.
Les entreprises ne fonctionnent pas, les gens sont restés à la maison, le transport ne fonctionne pas, parce qu'on a annoncé 2 journées de grève, largement observées. Mais c'est plutôt aussi cette peur qui empêche la population de vaquer à ses activités, parce que au vu de toutes les scènes de violence qu'il y avait vendredi soir, samedi jusqu'à dimanche matin, et tout le monde essaie de protéger sa vie. Il y avait des tirs nourris dans plusieurs quartiers au niveau de Pétionville, au centre-ville. Donc, on essaie de se protéger.
Mais quelles ont été les raisons à l'origine de ces manifestations?
Bon, évidemment, c'est l'annonce du gouvernement de l'augmentation des prix des produits pétroliers de l'ordre de 38% à 51%. Cette mesure est imposée par le Fonds monétaire international qui a signé un cadre de référence avec l'État haïtien en février dernier pour l'exiger de supprimer certaines subventions et afin qu'on puisse éviter les déficits budgétaire que connaît l'État haïtien chaque année.
Mais l'État est revenu sur sa décision, n'est-ce pas?
Oui, le gouvernement a été contraint de revenir sur sa décision. Le gouvernement a suspendu jusqu'à nouvel ordre, faut-il le préciser, la mesure. Et c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on pourrait revenir sur la décision. Et malgré ça, malgré l'annonce du Premier ministre et malgré l'adresse à la nation du président dans la nuit du samedi, ça n'a pas forcément calmé la population parce qu'on sent qu'il y a vraiment au fond une insatisfaction généralisée. Il y a plein d'autres revendications. Donc la mesure d'augmenter le prix de l'essence n'a été que la dernière goutte d'eau qui a fait renverser le vase.
Mais dites-moi, est-ce que la défaite du Brésil au Mondial 2018 n'a pas été l'une des causes du caractère virulent de ces manifestations puisque Haïti est un vrai supporter de l'équipe brésilienne?
Oui, au fait, on ne va pas dire que la défaite du Brésil a été la cause, mais plutôt a facilité le soulèvement parce que, oui, en Haïti, la grande majorité de la population est fan du Brésil. Le fait que le Brésil soit éliminé, les fanatiques n'ont donc aucun intérêt à continuer à suivre le mondial. Donc maintenant, ils sont libres, ils ont le temps de faire entendre leur voix.
Ils ont jeté leur dévolu sur le gouvernement.
Exactement, c'est un peu ça.
Obed Lamy, joint à Port-au-Prince par Irénée Herman Ungo.
Thank you.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Jean-Roger Dion pour le suivi de l'actualité et Georges Léonard Stagnaud pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.